Alors, vous voyez sur l'écran, dans un instant, quelques vers anglais d'un de mes poèmes favoris, 13 Ways of Looking at a Blackbird, de Wallace Stevens. Il existe une traduction française, 13 manières de regarder un merle. Stevens veut nous rappeler que nous avons plusieurs façons de voir le même objet, l'œil du merle dans un paysage neigeux, le merle qui vole au-dessus, le merle qui doit voler, un merle parmi trois, l'ombre du merle. C'est un bon conseil pour nous, les historiens. Il y a toujours plusieurs façons de voir le même document, d'interpréter la même phrase. Prenons la traduction française de ce poème. Stevens commence « Among 20 snowy mountains ». En français, le traducteur dit « Entre 20 pics neigeux ». Pic, ça sonne faux à mes oreilles. Pourquoi ? Stevens habitait juste à côté de chez moi, littéralement à 5 maisons de la mienne. Toute sa vie, il travailla dans une compagnie d'assurance. Il se promenait tous les jours entre la maison et son boulot. À ses obsèques, un de ses collègues professionnels s'étonna que son camarade de bureau avait été parmi les plus grands poètes américains. Ce bon vieux Wally, pas possible. Pic, oui, le choix de mots est peut-être poétique, mais dans notre Connecticut, il n'y a pas de pic, ni des vraies montagnes. Tout près de chez nous, il y a une colline qu'on appelle Avon Mountain, qui fait tout juste 300 mètres d'altitude. Quelques kilomètres plus à l'ouest, le paysage devient une série de collines, toutes de cette taille. En Connecticut, nous appelons parfois colline, Litchfield Hills, et parfois montagne, une sorte de blague locale. Pic, non, il n'en est pas question. Quand je lis un discours d'entrée de l'Académie française du 17e ou 18e siècle, je me souviens de Wallace Stevens et de ses Snowy Mountains. Je ne suis pas que trop conscient d'être presque sourd à la beauté des inflexions, à la beauté des sous-entendus des académiciens. Dois-je écouter dans leur discours le merle sifflotant ou plutôt le silence juste après? C'est le merle 5 là. Pendant le règne de Louis XIV, les merles sifflotent leur louange du roi Soleil, mais moi, j'entends des choses desafinado, des notes légèrement fausses. Écoutons-les nu, attentivement, non dans la façon la plus facile, celle de l'absolutisme, mais d'autres façons. Regardons-nous, non pas le merle lui-même, mais son ombre, pour voir si c'est vraiment indéchiffrable, comme dit le poète. Peut-on parler d'une culture politique sous la monarchie des Bourbons? Nous acceptons l'existence d'une telle culture dès les années 1750, mais au premier regard, nous devons sûrement nier la présence d'une sphère publique, pour reprendre l'expression de Habermas sous Louis XIV. Cependant, si nous laissons de côté les expressions innombrables des vertus héroïques de l'égoïste suprême qui fut le roi Soleil, nous pouvons faire la découverte des continuités fondamentales dans la pensée politique en France entre l'époque de la monarchie républicaine du XVe et XVIe siècle et celle de l'État monarchique du XVIIe et XVIIIe siècle. Je vous propose un voyage dans leur cartographie et les suivantes. De la mort d'Henri IV au début de la guerre de 30 ans, un pays en transition. Deuxièmement, l'emprise de Richelieu et de la raison d'État, le triomphe du vocabulaire de l'État. Troisièmement, l'État dans une monarchie de guerre, un regard bénévole sur le soleil levant. L'État d'une monarchie en crise existentielle, un regard triste sur le soleil couchant. Et cinquièmement, la monarchie de paix, l'aube rouge d'un nouveau monde. Pour ceux parmi vous qui ne sont pas des marins, je vous rappelle l'adage ancien des gens de mer. En anglais, on dit « red sky at night, sailors delight, red sky in morning, sailors take warning ». En français, je pense que c'est « rouge le soir, bel espoir, rouge le matin, de la pluie en semaine ». Ce matin, c'est plutôt de la neige. Alors, je vous le passe pour un instant. Ça, c'est le poème. Et on a cité le numéro 5, là, la Beauty of Inflections, the Beauty of Innuendos. Alors, ça, c'est le programme. Ça, c'est notre 5 étapes, plus ou moins. Je vous laisse ça pour une seconde. Les trois qui guidera dans le calcul de nos coordonnées pour ce voyage sera l'Académie française, ses discours de réception et quelques réponses. Cet étroit nous conduira par la voie moins empruntée, the road less traveled, de notre grand poète de la Nouvelle-Angleterre, Robert Frost. Nous évitons l'autoroute dont les sorties portent les noms du Cardin Lebrat ou Bossuet, ou tant d'autres champions de la puissance absolue du roi de France. Bacchus nous a donné, pour ne donner qu'un seul exemple de leur optique, une belle explication de leur réhabilitation de la réputation de Louis XI. Pourtant, des vrais historiens du XVIIe siècle, comme François Hudes de Mézeray, nous donnent un drôle de portrait d'un roi réhabilité. Je cite, « Louis renversa tout pour suivre son caprice. Mauvaise fille, mauvaise père, infidèle mari, frère injuste, ingrate, maître et dangereux ami, il régna sans conseil, sans pitié, sans justice, la fraude fut son jeu, sa vertu l'artifice. » Nous voyons ici un mélange des défauts particuliers de fils, de mari, de frère, d'ami, avec ces défauts du tyran qui régna sans conseil, sans pitié et sans justice. Si nous pouvons trouver beaucoup de partisans du pouvoir absolu du roi et beaucoup de ces flatteurs dont les orateurs modernes fustigent l'existence en chaque harangue fait au roi, nous pouvons trouver autant, même plus, de citoyens qui rappellent au roi ses obligations monarchiques, avant tout de rendre justice à un chacun. Ces leçons avaient une longue histoire. Laissant du côté des exhortations des prêcheurs, lisons la littérature de formation des princes français, commençant en 1279 avec Gilles de Rome, qui a rédigé son De re gamine pour le petit Philippe le Bel. Alain Bourreau trouve révolutionnaire l'idée derrière la production de ce texte, l'idée que le monarque doit savoir gouverner. 100 ans plus tard, Charles V, le sage, commanda une nouvelle traduction française de Jean Gollin pour l'instruction du futur Charles VI. Il s'agissait des idées de Gilles de Rome dans son De re gamine, et non pas celles de son De ecclesiastica potesta. C'est un bon exemple du choix conscient opéré par la royauté. Et quel est le premier conseil de Gilles de Rome ? Dit le philosophe, que chose qui est violente et par fausse n'est point perpétuelle ni ne peut longuement durer. Mais c'est perpétuel et dure longuement qui est selon nature. Donc qui vaut sa seigneurie faire durer perpétuellement si le étudie que son gouvernement ne soit pas violent mais selon nature, lequel ne peut être naturel si, s'il n'est selon raison. Le philosophe, bien entendu, c'est Aristote. Nous savons aussi que Gilles a fait ses études à Paris avec Thomas d'Aquin, donc ses filiations intellectuelles sont bien établies. Selon nature. Je vous demande de garder en tête cette expression. La semaine dernière, j'ai identifié Robert Lecoq comme un des deux parrains du vocabulaire nouveau du bien de la chose publique en 1356. Or, sa disgrâce nous permet de jeter un coup d'œil à son univers intellectuel parce que le roi a confisqué ses manuscrits. Il en a possédé 76, surtout des traités de loi civique ou canonique. Parmi les rares manuscrits philosophiques, nous trouvons Gilles de Rome, De re gemini principum, et Barthélemy Langlais, Liber de proprietatibus rerum. Charles V avait subventionné la traduction de l'anglais par Le Corbuchon. Le Corbuchon adressait ces mots à son patron. « Cet désir de sapience, prince très débonnaire, à Dieu fichier, planté et enraciné, en votre cœur très fermement dès votre jeunesse, comme il apparaît manifestement en la grande et copieuse multitude de livres de diverses sciences que vous avez assemblés chacun jour par votre fervente diligence, et quel livre vous puissiez là parfondre ou de sapience, au sceau de votre vif entendement, pour la épandre au conseil et au jugement au profit du peuple que Dieu vous a mis à gouverner. Tout cela vient d'Aristote, évidemment, et nous pouvons aussi constater l'influence du nominalisme de Jean Buridan et d'Orem. Jean Gerson, au début du XVe siècle, nous laissa une mémoire sur l'instruction du dauphin. Gilles de Rome y figurait toujours parmi les lectures. Sa leçon la plus fondamentale, que la raison doit régner sur la passion, surtout pour le prince, parce qu'il donne l'exemple aux autres et qu'il doit les restreindre le cas échéant. Au XVIIe siècle, nous rencontrons Ardouin de Pérafix, précepteur de Louis XIV, aussi bien que Mézeray, qui enseigne l'histoire au grand dauphin, et Fénelon, précepteur du duc de Bourgogne. Tous les trois sont membres de l'Académie française. Qu'enseignait-il précisément? Ardouin de Pérafix, dans l'édition publique de son histoire du roi Henri le Grand, nous informe que son élève royal avait une affection particulière pour son grand-père, qu'il voulait prendre comme modèle. Cette affection pour son grand-père semble avoir été bien connue des contemporains de Louis XIV. Pellisson, par exemple, dans son premier discours en défense de Fouquet, évoquait souvent d'Henri IV, un roi qui ne se servit jamais des commissaires, c'est-à-dire des commissions judiciaires extraordinaires, un roi qui savait bien pardonner. Pour Ardouin de Pérafix, Henri fut un homme courageux, d'un équilibre extraordinaire, même dans les situations les plus pires. Il demeura toujours, et je cite, « un roi, un souverain, sans reconnaître des supérieurs autres que Dieu, la raison et la justice. » Fin de citation. Nous entendons ailleurs, en Ardouin de Pérafix, l'écho de Gerson. Le roi doit aimer la lecture. Les dauphins doivent apprendre que sans sapience, les hommes ne sont que des brutes. Thomas Cornet, en 1685 à l'Académie, le dit d'une manière plutôt cartésienne, et je cite, « L'homme n'est homme principalement que parce qu'il pense. » À la mort de Pérafix, l'abbé Cassagne, aux obsèques, fait la comparaison de Pérafix et Louis XIV d'un côté et de Sénèque et Néron de l'autre. Pérafix aimoit l'Église, il aimoit le roi, il aimoit le cœur chrétien, le cœur François. Parlant de Sénèque, Cassagne dit qu'on lui veut reprocher de n'avoir pas assez fortement représenté à son disciple qu'un prince cruel est un monstre, que la bonté gagne la mort, que la mort assure les empires et qu'une âme généreuse qui se trouve assise sur le tronc n'ordonne jamais d'injustes supplices et ne se porte qu'à regretter, à ordonner les plus justes châtiments. Quelle comparaison heureuse nous présente le bon Pérafix, je cite, que si un méchant prince est la hante de son précepteur, par quelle raison faut-il qu'un bon prince ne soit pas la gloire du sien? Et puisque le rein du roi n'est point taché de sang comme celui de tant d'autres souverains, que le colère d'une passion inconnue à ce grand monarque et qu'il se fait autant aimer par sa bonté que révéré par sa prudence et crainte par sa valeur. Fin de citation. L'analyse du discours de raison d'État forme la base de beaucoup de travaux de grands historiens comme William Church ou Nanur Cohen dans le monde anglophone. En France, des travaux récents de Chaline, de Cornette et plusieurs autres témoignent l'importance de cette idéologie de pouvoir et de la relation avec la puissance accrue du roi et de l'État. Pour moi, comme vous l'imaginez, c'est surtout une question de la puissance accrue de l'État. J'admire beaucoup le formulaire de Sermont et Stoll pour Louis XIV et ses ministres. C'est le titre de leur livre, « Régner et gouverner ». Jean-Roland Mallet, dans sa réponse à Longuet en 1721, l'appelle le grand art de régner. Le roi règne, mais il gouverne également. Or, le gouvernement, ou si on préfère un autre mot assez courant au XVIIe siècle, la police, exige l'information. D'où vient cette information? En anglais, nous avons une expression assez utile, information flow. Non seulement la chaîne d'information, mais son parcours, si vous voulez. Si nous lisons, par exemple, des lettres royales pour les statuts d'un corps de métier, le texte, au moins 95% du texte, vient des jurés du corps du métier en question. C'est tellement bien connu qu'on parle toujours des lettres obtenues par surprise quand il s'agit de rectifier la législation royale. C'est le cas des disputes de juridiction entre des différents métiers ou parmi deux villes ou même deux provinces. C'est la situation au Moyen-Âge. C'est toujours la situation au XXIe siècle. Je vous cite Le Monde diplomatique, janvier 2013, un article de Mathilde Coron-Gouanec. La loi Brancard présentée par le gouvernement français fin décembre a été largement inspirée par le lobby des banques. Aux États-Unis, c'est chose déjà faite depuis longtemps. La plupart des textes de nos lois sont rédigés par les lobbyistes. Le problème est tellement grave qu'il présente une menace à la démocratie. Je pense que M. Rosanvallon en parlait un peu il y a 12 ans dans un très bon livre. Je peux vous citer comme une instance aux États-Unis la législation de 2008 pour la bourse, le fiscal bailout. Au début, il s'agit d'une loi de 8 pages. Oui. Et la Chambre des députés a voté non, contre. 10 jours plus tard, la Chambre des députés a changé d'avis. Et cette fois, la législation en question compte 500 pages. C'est pas mal, ça. Et ça vient d'où? Évidemment, ça vient des lobbyistes, parce que c'est déjà fait. Avant de passer à nos discours de l'Académie, je veux insister sur l'implantation du nouveau vocabulaire de l'État entre 1610 et 1640. Alors, c'est quoi l'État? Et je cite Pélisson devant l'Académie française en 1652. Cependant, monsieur, à le considérer comme il faut, un État, quelque fleurissant, quelque illustre qu'il puisse être, qu'est-ce autre chose qu'un amas de gens, que l'intérêt et la nécessité seulement joignent ensemble, où règnent tantôt des richesses, tantôt la force et la violence, tantôt l'intrigue et la fourbe, et très rarement le mérite et la vertu. Souvenez-vous que la définition donnée par Calepinus pour République est un amas de citoyens, pas un amas de gens. Prenons pour un exemple l'Assemblée des notables de 1626. Michel de Marillac, garde des Sceaux, dans son discours d'ouverture, dit aux députés « Le roi vous a convoqué en ce lieu pour avoir vos avis sur les plus grandes et importantes affaires de son État. » Quelques minutes plus tard, il dit aux députés que le soin continuel et l'affection singulière que Sa Majesté porte au repos de ses sujets et au bien de tout l'État lui donne des bonnes pensées. Alors, nous entendons une confusion. Il parfois voit de l'État comme possession de roi sans État, et parfois, dans la nouvelle formule, l'État. Le maréchal de la force, parlant pour la noblesse, exprime cette même confusion. Votre État, utile à son État, mais les nobles tiennent un rang honorable en l'État. Un des éléments les plus intéressants du procès-verbal est un pamphlet imprimé pendant l'Assemblée avec le procès-verbal. On ne donne pas le nom de l'auteur, de son auteur, mais il est si bien renseigné qu'il doit être un autre fonctionnaire dans les finances, peut-être le marquis Defia, nouveau surintendant des finances. Ce pamphlet nous donne une phrase exceptionnelle dans les instructions du roi à l'Assemblée. Le roi veut que les députés, je cite, nous donnent en toute franchise et sincérité les conseils qu'ils jugent en leur conscience les plus salutaires et convenables au bien de la chose publique. C'est la seule mention de la chose publique dans ce procès-verbal. Je passe. Et Fiat prend toujours le discours de l'État, de cet État, mais aussi de bons Français qui aiment leur patrie. Nous voyons plus tard que ce couple État-patrie reste la liaison dangereuse de toute la période 1726 à 1757. Dès ce moment, plus ou moins, le discours politique prononce un divorce entre les deux. Le nouveau partenaire de la patrie se nomme la nation. C'est bien possible que ça date même avant. Et Richelieu, rien d'étonnant qu'il sorte de l'expression « l'État » et uniquement « l'État ». Ici, il part de l'avantage de cet État, le salut de l'État. Mais il part une seule fois du bien public. Il est la seule personne qui parle du bien public. Ailleurs, il garde toujours le discours du bien de l'État et du dessein utile et glorieux pour l'État. Le roi fait des choses qui ne sont pas moindres et Dieu lui fera la grâce d'en faire des plus difficiles. S'il en vient au bout de ce dessein et que la France jouisse tous les ans du revenu qui proviendra de ses achats, ce semble à présent impossible et que toutefois est nécessaire pour le bien de l'État. Alors, on écoute le même discours dans les autres documents de l'époque. Je ne cite qu'un pour passer plus vite. Le cahier de doléances de la ville de Lyon pour les États généraux de 1614. Il ne parle que du bien de l'État ou du bien et utilité de la ville. Un de leurs articles demande à Marie de Médicis qu'elle continuera à donner toujours son conseil au jeune roi, je cite, « aux moyens desquels l'État prospéra ». Leur troisième chapitre, parce que comme tous les cahiers, il y avait des chapitres, suivant seulement ceux de l'Église et des hôpitaux, s'intitule chapitre de l'État et police en général. Comme Mézeray l'a dit, le bien public n'était plus qu'un rêverie. Les adversaires du gouvernement, comme en parlait-il, en 1640 pour les États généraux, nous constatons un mélange de langage, le roi et son État, l'État, le bien public. Arnaud Père, dans son pamphlet utile et salutaire advis au roi pour bien régner de 1614, s'adresse au jeune Louis XIII. « Voici le jour venu auquel votre majesté doit faire connaître. Combien était prudent la loi de celui de vos prédécesseurs qui, entre tous les autres, a mérité le surnom de sage, c'est-à-dire Charles V, laquelle vous met en main le gouvernement de l'État à 13 ans et un jour. » Dès le début, Arnaud parle presque uniquement de votre État. Alors, pendant la Fronde, les adversaires de Mazarin parlent presque uniquement du bien de l'État. La formule « bien public » persiste ici et là, mais si quelques auteurs se servent du bien public, au début de leurs arguments, ils passent ensuite uniquement à une discussion du bien de l'État. Cette distinction nous indique que le concept du bien public n'a pas disparu. De temps en temps, aux assemblées de l'Académie française, on entend ce formule, toujours liée à l'État. Mézeray, dans son abrégé chronologique de l'histoire de France, dénonce tous les ennemis du bien public, surtout le chancelier de François Ier, Intron Duprat, je cite, qui mourut fort tourmenté des remords de sa conscience, pour n'avoir point observé d'autre loi que ses intérêts propres et la passion du souverain. C'est lui qui a ôté les élections des bénéfices et les privilèges à plusieurs églises, qui a introduit la vénalité des charges de judicateurs, qui a appris en France à faire hardiment toutes sortes d'impositions, qui a divisé l'intérêt du roi avec le bien public. Je passe plus vite encore. Un autre, dans un pamphlet, dans un des Mazarinades, le bon citoyen faisant voir l'antinomie des maximes d'État et de la religion chrétienne touchant la guerre, s'oppose aux guerres sans fin. J'avoue que les Alexandres, les Césars et beaucoup d'autres ont fait la guerre le chemin à l'immortalité. Ces grands hommes n'ont point trouvé de quoi s'occuper tout entière que dans un genre de vie qui semble la vérité pleine d'honneur et de gloire à raison des actions héroïques qui l'accompagne, mais qui se trouvera de tout contraire à la société civile et condamné même par l'Évangile. Peut-on pas dire que l'art de nous entretouer est une art diabolique? Pourtant, cet auteur si pacifiste qui écrivit si fortement contre toute guerre, quelle qu'elle soit, dit aussi « Il n'y a point de loi plus souveraine que le salut de l'État ». Pour lui, Mazarin et ses complices sont les ennemis de l'État. C'est un peu comme plus tard, les ennemis du peuple. Nous attendons l'écho de ces sentiments pacifiques dans le discours d'entrée de Hippolyte Joule, Pilet de la Ménardière, en 1652. Je cite, « Comme le monde ne voit presque jamais ensemble la félicité d'un peuple et les conquêtes de son prince. » Fin de citation. Là, dans la bouche d'un des plus proches de Richelieu, et dans un discours pendant lequel il prétend que le grand cardinal lui a nommé comme son exécuteur littéraire, nous entendons un thème qui revient à l'Académie avec vengeance sous le jeune Louis XV et même à la fin du règne du roi Soleil. L'auteur ultra-parlementaire de la nature et qualité du Parlement de Paris, qui loue ce grand Sénat qui est à la gloire du monde, l'honneur de la France et l'appui de la monarchie, ne parle pas du bien public ni de la chose publique. Ces trois, dont cette assemblée qui se faisait des lois, la police générale de l'État. Tout se décide par la liberté des suffrages. Tout le monde avoir part à la délibération, parce que cette monarchie a été fondée sur la liberté et ni à un point de gouvernement plus légitime ni plus naturel. On compte toujours naturel. C'est pour nous un drôle d'idée que la fondation de la monarchie française au milieu du XVIIe siècle est la liberté. Cette expression, la liberté des suffrages, est un thème constamment renouvelé par les parlementaires. Il réclamait toujours la nécessité de la liberté des suffrages et de la parole. Pourquoi ? Parce que la liberté de parole et de suffrage est la marque du citoyen. Écoutons encore Ménardier, qui parle de l'honorable composition d'une compagnie de gens choisis en pleine liberté de suffrage. Un autre auteur de la Fronde, à la fin de son discours, parle des lois, de l'obligation du roi de maintenir et conserver les lois fondamentales de l'État sur lesquelles les rois subsistent et font sûrement quand ils sont sacrés. Je vous cite deux exemples de l'importance de ces idées de lois fondamentales. L'un du monde des juristes, l'autre du monde militaire. Chez les juristes, l'opposition parlementaire au bull unigenitus au début du XVIIIe siècle nous donne un cas bien connu. Mais ce qui est moins connu, c'est chez les militaires, nous avons le cas de la révolte des maréchaux en 1672. De tout temps, les maréchaux de France avaient le droit de ne pas servir aux ordres que du roi, des princes du sang ou du connétable. En 1672, Louis XIV demande au maréchal Dumière de Belfond et du Créqui de servir aux ordres de Turenne, lui aussi maréchal de France. Les trois maréchaux refusent de servir sous les ordres de Turenne. L'ambassadeur de Savoie nous dit que Louis XIV a lui-même parlé avec Dumière et que les trois maréchaux sont renvoyés de la cour pour leur obstination. Quand le roi parlait là-dessus avec une autre maréchale, Duplessis, le maréchal, je cite, lui a dit qu'il n'y avait pas d'exemple que jamais aucun maréchal de France eût commandé à un de ses camarades et que même c'était contre les constitutions du royaume. Fin de citation. Duplessis a dit au roi que tous les maréchaux ont le plus de respect possible pour M. de Turenne. Mais si le roi veut les faire survivre aux ordres de Turenne, qu'il doit le nommer connétable. Pourquoi ? D'après les lettres de Saint-Maurice, l'ambassadeur de Savoie, Louis XIV témoigne son respect pour la décision du maréchal du Créqui, sinon celle de ses collègues. Les membres de chaque corps tiennent très conscience de l'essence et la qualité qu'il partage. Citant l'exemple de Louis de Marillac, 40 ans plus tôt, maréchal de France. Comme vous savez, suite à la journée des dupes, dès que le maréchal est revenu prisonnier d'Italie, Louis XIII a envoyé quelques juges pour interroger Marillac. Il y avait des difficultés et les procès furent dénoncés partout comme irréguliers. Le roi a cassé deux arrêtés du Parlement qui avaient demandé la cessation de la commission extraordinaire. Marillac, en tant que maréchal de France, demande d'être jugé à la grande chambre du Parlement de Paris. Et je cite son discours au juge. Davantage que les privilèges des personnes particulières et qui leur sont octroyés pour cause particulière, pourquoi peut-être se révoquer par une commission particulière, mais les privilèges des charges et dignités qui regardent l'ordre des premières charges du royaume, non seulement ne se pouvoir révoquer en cette manière, mais même les personnes qui en sont revêtues n'y peuvent pas renoncer et n'y seront pas recevables quand ils le voudront, parce que ne peuvent pas nuire à leur ordre, de sorte qu'ils reconnaissent la dite révocation de leurs privilèges en cette manière, non seulement ils se rendent indignes des charges dont il a plu au roi les honorer, ils offensent ce roi très sensiblement et très indignement le corps de tous les messieurs les maréchaux de France et toutes les autres dignités de l'État présents et qui seront ci-après. Et ensuite, c'est pourquoi, plutôt que de faire un si grande injustice à tant de personnes notables et importantes que les plus grands auteurs de notre temps en appelaient les colonnes de l'État, il estime-moi être de son honneur et de son devoir de préférer leurs intérêts aux siens et la dignité de tout le corps à la conservation de membres particuliers. S'adressant au juge, il est témoin son respect en tant, pour eux en tant que gens de bien, mais et je cite encore, « la commission avec laquelle il agit soit et toi nul de toute sorte de nullité, et que, qui sont anciens sénateurs, versés, expérimentés au fait de la justice, devoient prendre garde que la dite commission, ni en sa substance, ni pour les personnes qui y sont nommées pour juge, ni pour son regard contre lequel est obtenu, ni pour les causes motivées, dit-elle, ne pouvoir subsister. » Plus tard, Marillac, comme le Parlement, s'inclina devant l'inflexibilité du roi de Richelieu. Cependant, ce procès évoque de si graves critiques. Gaston d'Orléans écrit au juge en son propre nom. « Je vous prends à partir en vos propres et privés noms comme complice d'un attentat contre la justice et contre l'honneur de sa majesté. » Et que vos vies et vos biens me répondent au sang innocent que vous aurez fait répandre injustement pour satisfaire à la rage de cet ambitieux, c'est-à-dire Richelieu, lequel sera tenu un jour, et vous aussi d'en rendre compte par les mêmes voies de justice que vous aurez méprisées et foulées aux pieds en cette action. Les lois doivent respecter les lois de la monarchie aussi bien que les lois divines. Le moléniste Pierre de Saint-Joseph, bien connu pour ses états contre Jansénius, a publié en 1649 un pamphlet. Le roi, c'est le souverain visible de tout ce suprême invisible. Pour la direction et l'exercice de sa providence et de sa justice temporelle pour les hommes, sans autre dépendance que celle de Dieu. Les rois ne sont pas d'eux-mêmes absolus et indépendants. Les idées du pouvoir absolu que le roi peut, et je cite encore, disposer selon son plaisir de tous les biens de ses sujets et sans autre motif ni consolation que sa propre volonté sont des maximes impies qui n'ont été inventées que depuis quelques années par des sangsues populaires, par des hommes de gourmandise, de luxure et d'avarice pour servir de prétexte au vol et aux violences qu'ils ont fait à l'oppression de tout le monde. À l'Académie, nous entendons souvent la comparaison des travaux politiques de Richelieu et de sa fondation de l'Académie. Dans son discours funèbre pour Abel Serpien, un ministre d'État, en 1659, L'aumônier du roi Cotin reprend la distinction entre les arts de la raison et ceux de la force. Je cite « L'aimantissime cardinal de Richelieu ne fit jamais rien de plus avantageux pour l'honneur des belles-lettres, pour la réputation de la France et pour la gloire de Louis le Juste que l'établissement d'une compagnie qui porta le nom François par son éloquence aux dernières extrémités de la terre, où la terreur de nos armes n'étroit pas encore parvenue. Le triomphe sur l'ignorance est plus digne de l'âme raisonnable que le triomphe sur les ennemis. Un taureau peut vaincre par la force, mais il est de la dignité de l'homme de vaincre seulement par la raison. » Aucune surprise, les discours d'entrée de l'Académie englobent tous ces courants de pensée politique. Avant 1661, nous entendons très peu de louanges pour le Genois. Tout le monde dit quelques paroles gracieuses du jeune homme, mais les académiciens donnent toujours la primauté à leur république des lettres. Tellement, l'aumônier du roi, en 1651, nous donne pour un exemple « Je suis témoin que votre jeune monarque a une telle passion pour vos exercices qu'il quitte les passe-temps où son âge le convie pour faire ses études. » En tant que grand-père d'un jeune homme de 12 ans, ça m'étonne. Rappelons qu'à ce moment-là, l'Académie était toujours sous le patronage du chancelier Séguier. Les discours parlaient surtout du fondateur, le grand cardinal, de l'importance de l'Académie. Dès l'entrée de Michel Leclerc, en juin 1662, nous écoutons du louange outré, du grand Louis. L'abbé Têtu, en mai 1655, parle de Richelieu et ensuite du jeune roi. Cette autorité royale, souveraine et légitime, qui a passé si heureusement entre les mains de notre auguste monarque, qui la porte tous les jours si loin et qui l'exercice si glorieusement pour ses sujets et d'une manière si redoutable pour ses ennemis. Fin de citation. Et comme tellement le jeune témoin, en 1683, parlant de Colbert, on cite toujours le bien de l'État. Je cite « Enfin, nos ministres, jamais n'eut plus d'attachement pour son maître, ni plus de zèle pour le bien de l'État. » D'après Charpentier, le mérite de Colbert est bien montré par le fait que le roi se repose sur lui de ses plus importants affaires, et particulièrement de la conduite de ses finances, qui sont les nerfs de la guerre, ou pour mieux dire, les principaux ressorts de la machine politique. C'est une bonne image, ça, la machine politique. Oui, oui, notre grand roi est redoutable pour ses ennemis. Il est toujours victorieux, toujours courageux. Tous les souverains d'Europe meurent de jalousie, de ses conquêtes, de sa puissance, de sa domination dans tous les domaines, bla, 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 bla. Racine loue les qualités du roi, mais dans une manière presque péremptoire par rapport à ses collègues. Le 2 janvier 1685, à l'apogée du soleil, Racine donne la réponse de l'Académie à l'entrée de Thomas Cornet, qui remplace son frère. Et il parle ici de Cornet. « Vous, monsieur, vous savez en quel état se trouva la scène françoise lorsqu'il commença à travailler. Quel désordre, quelle irrégularité, nul goût, nulle connaissance des véritables beautés du théâtre. En un mot, toutes les règles de l'art, celles même de l'honnêteté et de la bienséance, partout violées. » La scène retentit encore des acclamations qui excitent à leur naissance, le Cid, Horace, Cinna, Pompée, tous ces chefs-d'œuvre représentés depuis sur tant de théâtres, traduits en tant de langues qui vivront à jamais dans la bouche des hommes. Le même siècle qui se glorifie aujourd'hui d'avoir produit Auguste, et on parle toujours de Louis XIV comme Auguste, ne se glorifiait guère moins d'avoir produit Horace et Virgile. Ainsi, lorsque dans les âges suivants, l'on parlera avec étonnement des victoires prodigieuses et de toutes les grandes choses qui rendent notre siècle, qui rendront notre siècle l'admiration de tous les siècles à venir, Cornet, n'en doutons point, Cornet tiendra sa place parmi toutes les merveilles. La France se souviendra avec plaisir que sous le règne de plus grand roi de ses rois a fleuri le plus faible de ses poètes. On croit avoir même ajouté quelque chose à la gloire de notre auguste monarque, que l'on dira qu'il a estimé, il a honoré de ses bienfaits cet excellent génie. Nous écoutons dans la bouche de Racine plusieurs thèmes assez importants. celui du chaos, du désordre, celui de l'importance du triomphe de la langue française dans le champion et l'académie, celui du bon prince, de la gloire de monarchie estime, une grande poète. Quelles sont les qualités d'un bon prince ? En décembre 1695, Dessier, parlant de l'archevêque Harlay, le loup, parle ensuite de Louis le Grand, soutenu par le bras invisible qu'il a toujours été son bouclier, son asile, s'oppose seul à cette foule d'ennemis à mesure que cette hydre croît, la force et le courage de ce prince se multiplient. Ça aura été un triomphe très glorieux de résister à tant de puissances unies, mais sa piété obtient de Dieu des armées, des victoires pleines de merveilles qu'il n'attend. La Bruyère, en 1693, sifflote ses louanges d'un roi si courageux. S'il soutient cette longue guerre, n'en doutons pas, c'est pour nous donner une paix heureuse. C'est pour l'avoir à des conditions qui soient justes et qui fassent honneur à la nation qui ôte pour toujours à l'ennemi l'espérance de nous troubler par de nouvelles hostilités. C'est une expression assez commune des années 1690. Le courage d'un prince qui résiste à tant de puissances unies. Cela me permet de parler de Fénelon et de faire la comparaison de son lettre à Louis XIV, une lettre que Fénelon a donnée à Madame de Maintenon, qui a eu le bon sens de la garder secrète toute sa vie, et de son discours de réception à l'Académie. D'abord à l'Académie. Mais que vois-je, bien sûr, une nouvelle congération de 100 peuples qui frémissent autour de nous pour nous assiéger, disent-ils, le grand royaume comme seule place. Louis seul, pendant 5 années, rampant des victoires et fait des conquêtes de tous côtés sur cette ligue qui se vantera de l'accabler sans peine et de ravager nos provinces. Alors, écoutons ce même Fénelon quelques mois plus tard, dans sa lettre privée. Depuis environ 30 ans, vos principaux ministres ont ébranlé et renversé tous les anciens maximes de l'État pour faire montrer jusqu'au comble votre autorité qui était devenue la leur parce qu'elle était dans leurs mains. Ils n'ont connu d'autres règles, ni pour l'administration du dudan de l'État, ni pour les négociations étrangères, que de menacer, que d'écraser, que d'anéantir tout ce qui leur résistait. On a rendu votre nom odieux et toute la nation française insupportable à tous nos voisins. On n'a conservé aucun ancien allié parce qu'on n'a voulu que des esclaves. Un tel conduite a réuni et animé toute l'Europe contre vous. Ces mêmes qui n'ont pas osé se déclarer ouvertement souhaitent du moins avec impatience votre affaiblissement et votre humiliation comme la seule ressource pour la liberté et pour le repos de toutes les nations chrétiennes. On les mêmes faits, une coalition universelle contre Louis XIV, mais sous 12 aspects bien différents. À mon avis, toutes ces mentions des puissances unies contre la France aux années 1690 sont autant de critiques de la politique de Louis XIV. Oh. Nous allons, 22 ans plus tard, à la mort de Fénelon, Dacier, dans sa réponse, successeur a dit « Monsieur l'archevêque de Cambrai, à qui vous succédez, et toi un de ces génies supérieurs qui font l'honneur à l'homme et qui sont rares dans tous les temps. C'est lui qui instruit et qui forme des rois, prépare le salut des États ou le perd. Avoir jeté les fondements du bonheur de plusieurs royaumes. » Alors, Fénelon instruit comment autant de rois par son Télémaque, qui lui méritait de rester à Cambrai pendant les 16 dernières années de sa vie. C'est une louange assez courageuse dans la France de la dernière année de Louis XIV. Si nous lisons de près les discours de l'Académie française, nous voyons plusieurs thèmes, surtout dès 1690, plus ou moins. D'abord, la nécessité de l'ordre, de la soumission de l'homme, des dangers de trop d'indépendance.
Jean Barbier d'Aucourt à la place de Mézeray, novembre 1683, Lou Colbert. Si l'on considère l'ordre admirable de la police dans toutes parties, l'air devenu plus pur par la netteté des rues, la nuit presque aussi claire que le jour, la sûreté publique dans la ville et à la campagne, au lieu qu'autrefois à peine on était en sûreté dans sa maison. C'est lui qui, par son application à exécuter les ordres du roi, a fait cet heureux changement que tant d'autres ministres avant lui avoir toujours promis de faire. Charpentier, en 1689, a repris ce thème de l'ordre partout, en peinture, sculpture, architecture, dans l'art du jardinage, la culture des plants, la conduite des eaux, la manufacture des étoffes précieuses, la belle entente entre les habits et les meubles. Tout s'est perfectionné. Paris est devenu le centre de la politesse et de l'élégance. Tous les membres sont d'accord que l'homme, par sa nature, aime trop son indépendance, donnant la parole encore à Fénelon. Tout le monde y a lu dans l'histoire de l'Académie de Pélisson, avec plaisir, la naissance de l'Académie. Pélisson présente un beau spectacle à la postérité. Armand, cardinal de Richelieu, changeois, alors la face de l'Europe, en recueillant les débris de nos guerres civiles, posa les vrais fondements d'un puissant supérieur à tous les autres. Il calme-moi une cor orageuse où les grandes inquiètes et jaloux et trois en possession de l'indépendance. Toujours Fénelon, parlant de pauvre Pélisson à la Bastille, fait référence à son heureuse captivité, lien salutaire qui réduit enfin sous le joug de la foi cet esprit trop indépendant. On a presque le sens que tout le monde pense de M. Hobbes et de son Leviathan, mais personne n'a jamais fait référence à ce livre si impie. Bossuet, en pensant sorti, en 1661, parle de l'excès de liberté dans la langue. L'usage, je le confesse, est appelé avec raison le père des langues. Le droit de les établir aussi bien que de les régler n'a jamais été disputé à la multitude. Mais cette liberté ne veut pas être contrainte. Elle souffre toutefois d'être dirigée. Vous êtes, messieurs, un conseil réglé et perpétuel dont le crédit établi sur l'approbation publique, et ça c'est un autre thème de l'Académie, l'approbation publique, peut réprimer des bizarreries de l'usage, de tempérer les dérèglements de cet empire trop populaire. Fénelon insister qu'on a enfin compris, monsieur, qu'il faut écrire comme les Raphaël, les Carrache et les Poussins en peintre, non pour chercher des merveilleux caprices et pour faire admirer leur imagination en se jouant du pinceau, mais pour peindre d'après nature. On a reconnu aussi que les beautés du discours ressemblent à celles de l'architecture. Les ouvrages les plus hardis et les plus façonnés du gothique ne sont pas les meilleurs. Melchior de Polignac, plus tard cardinal, reprend ce thème en 1704. C'est par cette route que les peuples ont passé de la barbarie à la politesse et de la férocité cruelle à l'amour de la vertu. C'est à la faveur de l'élégance et de la poésie que les premières lois ont établi leur autorité. L'homme toujours idolâtre de l'indépendance et rebelle aux préceptes qu'il a contraint a fléchi sous la manière de les proposer et l'art de persuader a introduit dans le monde l'art de bien vivre. Parlant de Richelieu, il dit « toujours attentif au bien public, il ne fixa point son génie aux besoins présents de l'État, il en embrassa toute la durée par la grandeur de ses vues ». On a tout le vocabulaire, nation, empire, État, et même ce pauvre orphelin du XVIIe siècle, le bien public. Cette formule est de retour dès les années 1690. Étudiant deux exemples, nos cours, mais si on ne s'étonnera pas de cette liaison du bien public avec l'élégance, si l'on considère que l'élégance récompense le plus magnifiquement ceux qui travaillent pour le bien public. La Bruyère, celle-ci est un des pensées de ce grand ministre, né homme d'État, dévoué à l'État, esprit solide, éminent, capable dans ce qu'il faisoit des motifs les plus relevés et qui ont droit au bien public comme aux gloires de la monarchie. Incapable de concevoir jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince qu'il servoit, de la France à qui il avoit consacré ses méditations et ses vœux. Nous revenons presque aux années 1650, pendant cette période quasi-républicaine. Rappelons encore le discours de Ménandière, parlant toujours de Richelieu et ses plans. La connaissance et le mérite sont infiniment plus excellents que l'autorité et le pouvoir. Les personnes, même les plus imparfaites, qui sont constituées en dignité sur la terre, jouissent ordinairement du dernier de ces avantages. Mais la suprême intelligence est un pur talent du ciel. C'est selon l'apparence le plus noble, le plus éclatant attribut de la divinité, si elle n'est Dieu elle-même. L'importance de la langue est le thème du discours bien connu de Massillon en 1719. Notre langue, devenue plus aimable à mesure qu'elle devenait plus pure, sembla nous réconcilier avec toute l'Europe, dans le temps même que notre victoire l'armoie contre nous. Un François ne se trouva étranger nulle part. Son langage était le langage de tous les corps, toutes les corps. Ne pouvant vaincre comme nous, nos ennemis voulaient du moins parler comme nous. La politesse du langage nous amena celle des mœurs. Goût qui régna dans les ouvrages d'esprit entra dans les bienséances de la vie civile et nos manières comme nos ouvrages servent de modèle aux étrangers. Le nouveau monarque doit, c'est-à-dire Louis XV, doit être soucieux de la langue, de tous les arts de la paix. Montesquieu, en 1725, nous donne le meilleur exemple de ce nouveau type du roi de Salomon pacifique qui suit le David belliqueux, pour reprendre l'image donnée par un de ses confrères. Parlant de Louis XV, Montesquieu a dit « Puisse-t-il aimer à étendre les éloges que l'on donne au prince pacifique, que le pouvoir immense que Dieu a mis entre ses mains soit le gage du bonheur de tous, que toute la terre repose sur son trône, qu'il soit le roi d'une nation et le protecteur de tous les autres, que tous les peuples l'aiment, que ses sujets l'adorent. » Louis XIV nous a fait voir que comme les peuples sont soumis aux lois, les princes le sont à leurs paroles sacrées. Que les grands rois ne soient à être liés par notre puissance, le sont invinciblement par les chaînes qu'ils se sont faites, comme le Dieu qu'ils représentent, qui est toujours indépendant et toujours fidèle dans sa primace. Il parle d'un roi pacifique qui sera entièrement heureuse, que les Français sera entièrement heureuse sous le règne de celui qui ne sera point forcé à vaincre et qui mettra toute sa gloire à gouverner. Doubeau, en 1720, parlant de Philippe d'Orléans, parle le prince éclairé qui nous gouverne et dont le monde adopte les décisions plutôt par déférence à ses lumières que par soumission à son autorité. Et en terminant, je finis avec un personnage qui m'est bien connu, Jean-Roland Mallet. Alors, Mallet, je le connais depuis 1972, parce qu'à ce moment-là, j'ai lu ses écritures sur les finances royales, et c'est le début de ma carrière comme historien de la France. Dans sa réponse, il parle d'Argenson, qui a rétabli partout l'ordre et la paix. Et je cite, « Et si Louis XIV a assuré le repos et le véritable bonheur à ses peuples en établissant les lois d'une jurisprudence entièrement consacrée à l'utilité commune, une phrase du XVIIIe siècle,
La Providence a placé à côté de Louis XV un grand homme capable par l'amour de la vérité et le zèle du bien public de former en ce jeune roi l'appréciation des richesses de toutes les sciences à tous les principes d'équité, de politique et de gouvernement. Lui apprendra le grand art de régner et les moyens d'assurer le bonheur de la nation. Le bonheur de la nation annonce, il me semble, un monde tout autre que celui du bien de l'État. Je vous remercie.